When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment, je suis accompagné de Wally Dia. Comment ça va Wally?
Ça va très bien et toi?
Ouais, super, on salue notre pote Navo, qui malheureusement est...
Qui manque de charisme.
Pour le coup aujourd'hui, il manque un peu de charisme. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il y a des bouchons dans Paris, c'est un truc tout nouveau.
Des quoi?
Des bouchons.
Ah ouais.
C'est-à-dire que les voitures en fait, c'est un nouveau phénomène
des
dans
voitures.
Paris. Ouais. Il y a des voitures bon,
déjà, dans
c'est
Paris.
C'est un nouveau phénomène dans Paris et c'est vrai que bon bah on s'est un peu fait, c'est un peu fait surprendre. Je suis accompagné de Wally Dia. Comment ça va, Wally?
Bah écoute, je me sens bien.
On parlait du fait d'avoir un enfant parce qu'on est, tous les deux des. Moi, je suis un plus jeune papa que toi, mais toi, t'es un jeune papa. T'étais en mode. Tu me disais que t'étais pas. Les enfants, à la base, c'était pas ton délire?
Bah, j'hésitais parce que je savais pas vraiment comment j'allais adapter ma vie à un enfant, en fait. C'est ce truc-là où. On a tous cette image, voilà, t'es là avec ta famille, tu gères tes enfants, et puis t'sais, quand t'as eu. Deux, trois enfants à garder, tu te dis...
c'est pas les tiens, en
écoute,
plus, du coup.
C'est...
il manque l'amour, il manque,
ouais,
il manque le vrai
mais
amour.
Mais c'est exactement la dimension qui manque. C'est-à-dire que quand c'est le tien, t'acceptes pas mal de contraintes, de choses que t'aurais pas acceptées d'un adulte. Par exemple, qu'un adulte te fasse subir ça, tu
t'aurais jamais... C'est le festival des contraintes. Hein.
Jamais de la vie, tu me réveilles comme ça.
Ça n'existe pas. Je suis dans mon froc, frère. Tu peux... s'il te plaît, aide-moi une...
Il te dit en criant, en plus, il te dit pas gentiment. Torche-moi! C'est horrible.
Non, pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Oui, je vais vous torcher. Oh, de la merde. Il est 6h.
Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, j'étais partagé entre kiffer moi et moi.
T'as quel âge là?
Moi j'ai 35.
35, donc oui, ouais. Donc, ça fait quelques années maintenant que t'es papa.
Ouais. Et en fait, tu te rends compte que. Ouais, tous les espèces de poncifs, de clichés qu'on t'a donné sur les enfants, aussi bien négatifs que positifs,
ouais.
Ils sont vrais. c'est un des rares sujets où les gens mentent pas trop.
ils te disent vraiment la vérité.
Quoi. Tu vas surkiffer et tu vas mettre des coups de tête dans les murs en même temps. Est-ce que ça s'annule pas? J'en sais rien.
je t'aime. C'est la même chose. Mon émotion est neutre.
C'est ça.
Tu sais, il y a un truc que je remarque même en tant qu'humoriste. Tu te dis, tu sais, des fois, tu vois des blagues sur Insta ou sur TikTok ou des réseaux sociaux, tu vois des gens genre, les mamans, quand elles couchent le bébé, elles sont comme ça, et les papas, ils sont comme ça. Mmh. Et moi, je suis là, genre, ouais, bon, tout le monde n'est pas comme ça, c'est pas parce que c'est la maman, ou c'est pas parce que c'est le papa. Et en fait, des trucs sont vrais. Et en fait, à chaque fois, je me dis ça, je me dis, putain, moi, j'ai jamais voulu mettre les gens dans des cases, et tu dis, bah là, la blague, elle est vraie, quoi. Par exemple, il y a une blague que j'ai vue hier soir sur Insta, c'était la mère avant de se coucher avec le bébé, là, genre, on dit bonne nuit le léopard, on dit bonne nuit la girafe, on dit bonne nuit les étoiles, bonne nuit la lune, et le père, il est là, il monte le gamin en énergie à bloc. Je sais pas si c'est un truc qui te parle, mais moi, c'est un
bien
truc
sûr.
Qui, moi, je le chatouille, je suis là, je rigole à fond, et je me dis,
bah, c'est des tempéraments, alors on va essayer de pas genrer les tempéraments.
Non, mais justement, je veux pas genrer les tempéraments, mais je suis assez surpris que ça soit vrai, quoi.
Mais c'est ça, c'est qu'on a, je pense qu'on a des conditionnements en tant que mec, en tant que femme, ou même en tant que gens tout court. C'est-à-dire que il y a des trucs dans ta vie qui t'ont conditionné à être comme ça. Et il se trouve qu'il y a des traits qui vont être plus masculins et d'autres plus féminins parce qu'on le voit. C'est comme ça. Alors est-ce que c'est réel sociétalement?
Je pense que c'est sociétal. C'est la société qui a créé tout ça.
Mais c'est vrai que on a des approches parfois où tu regardes et tu te dis pourquoi on fait ça? Pourquoi? En plus, moi, je fais pareil. Des fois, on va se battre avant de dormir. Tu dis, mais c'est pas maintenant qu'il faut se battre. Bats-toi l'après-midi à 16h après le goûter. Non, on va se battre à 20h30.
C'est à 20h30. Ça va monter l'énergie. Le bébé, il va tourner dans le lit pendant
après,
une heure.
Après, tu vas lui dire, et tu te lèves pas, hein? Ouais. Tu vois, c'est des contradictions. Mais en même temps, si j'ai le seul truc, parce que j'aurais aucun conseil d'éducation à donner, mais le seul truc que j'ai compris, c'est, être parfait, ça sert à rien. Ils se rappelleront que des fois où tu as déconné avec eux, que des fois où vous avez ri, que des fois où tu les as réconfortés, etc. Les erreurs que tu vas faire, c'est parce que tu as passé du temps avec. Donc, c'est la seule erreur qui fait que tu passes pas du temps avec, c'est de pas être là. Mais je veux dire, si t'es là, il vaut mieux que tu sois là et que tu foires des trucs que plutôt que tu sois pas là, quoi.
Ouais, j'avoue, donc, ouais, putain, ouais, clairement.
Donc voilà.
Il y a ce côté un peu, alors je vais pas dire, c'est pas triste dans le sens, mais tu sais, quand t'as un bon ami, que tu penses à ton ami, tu fais, tu sais, tu laisses un bon souvenir dans l'esprit. C'est pas, la personne n'est pas morte, hein.
Non, juste.
Ah ouais, putain, je le vois demain. Tu sais, ça t'active un truc. Et ben, j'aimerais, après, j'espère ne pas foirer et je vais tout faire pour foirer. Que ça fasse ça, tu dis, il y a papa, il y a papa. Tu vois? Mais s'il y a ça, bah, on a gagné, quoi.
Parce que c'est ça, en fait. C'est que tu retiens pas forcément ce que les gens t'ont dit, mais tu retiens ce que tu ressens quand ils sont là. Et ce truc-là, c'est ça qui fait que t'as envie de revoir telle ou telle personne. Et normalement, tes enfants doivent ressentir ça. En sachant qu'ils vont te voir ou en sachant que t'existes.
Bah ouais.
Et si t'es arrivé à créer cette connexion-là, c'est bon.
Bah exactement.
T'as ton diplôme de parent efficace.
La personnalité de nos enfants, elle est déjà là. Hein.
Ah bah, même eux, ils décident pas. Hein? Même eux, ils décident pas de leur personnalité.
Ouais, non, mais voilà, t'es là, c'est genre, bon, bah, ils sont là, il n'y a plus qu'à faire avec.
Hein. Faut les driver, il faut essayer de tirer ce que t'as cru comprendre de la vie. Parce que normalement, il faudrait qu'on ait des enfants à 70, 75 ans.
J'avoue. Après, ils auraient vraiment, ils verraient leur que leur daron vieux. Ils n'auraient jamais une partie de foot avec leur daron, rien du tout.
Il n'y aurait pas le côté physique, mais le côté expérience, il marcherait mieux. Parce que moi, je me rends compte parfois, et plus ça avance, des fois, il y a des questions où tu es là, ah ben, en fait, je n'ai pas répondu pour moi. Donc, si je vais peut-être là. Commencer à te distiller des choses qui seront pas vraies dans 2 ans. Donc, peut-être, je vais te dire un je sais pas. Et apprendre à dire le je sais pas, ça fait du bien, des fois.
Ouais, j'avoue, ça déstresse.
Je ne sais pas. Viens, on se renseigne ensemble.
Putain, c'est vrai. C'est un truc que je fais dans la live depuis 4-5 ans. Je sais pas.
Tu ne sais pas. Mais il vaut mieux dire ça. Parce que sinon, tu vas leur mettre déjà des biais, des trucs. Ils vont en avoir plein. Hein. Des biais qui dépendront pas de la famille. Donc, autant essayer de leur dire ça, je sais pas. Mais viens, on se renseigne ensemble. Et comme ça, on apprend à se renseigner. On apprend à décrypter une source. On apprend à croiser des
renseignements. On va sur lavériteconnousment.org.
Le complot n'est pas un complot, mais c'est un complot quand même.com. Mais voilà, t'essayes de. Tu lui apprends. À s'informer, en fait. Et ça fait partie de l'apprentissage.
Ah, j'avoue. Hein. Trop stylé. On est vraiment des... J'ai l'impression qu'on est des darons. Je sais pas si les darons, avant, ils se parlaient entre darons. Ils disaient, oh, tu vois, bah, tu vois, tu fais... Tu lui dis non, hein, tu vois. Je pense qu'avant, les darons, ils parlaient pas vraiment entre darons.
Je pense, ouais. Bah, tu sais, c'est le fameux patriarcat que les mecs subissent aussi. C'est-à-dire que tu te dis, ce rôle-là d'éducation, c'était réservé à la maman, etc.
Et l'éducation très forte du père. Et nous, le
on
père,
est là pour dire,
non,
tu fermes
limite.
Ta gueule maintenant. Tu vois,
tu dis, tu fermes ta gueule à un
enfant.
Ça me paraît tellement inconcevable.
Ça dépend ce qu'il dit.
Tu fermes ta gueule.
Moi, je pense qu'il y a certains trucs. Il y a vraiment que je suis là, je ferme ta gueule si j'avais des conneries. Non, mais voilà, on avait ce truc de, nous, on est là que pour la discipline.
Ouais, c'est ça.
Et c'est faux. C'est faux.
Toi, de ouf.
Et heureusement que...
Comme si on pouvait pas être aimant.
Ouais, mais voilà, je te dis, c'est un truc de recherche de virilité à travers ton gosse. Ça n'a aucun sens. Évidemment qu'il y a besoin d'une autorité, mais elle peut être maternelle, paternelle, elle peut être même extérieure, elle peut être...
Ouais.
Il faut un couloir, quoi.
Bah, ouais,
dire, voilà, c'est, non, on plante pas les gens parce qu'on n'est pas d'accord, tu vois. Il faut leur dire ça, quand même. Mais l'autorité, justement, la vraie autorité, elle intervient sans force. Dès que tu mets de la force, c'est de la coercition, c'est plus de l'autorité, donc ça marche plus.
Est-ce que tu as connu ton père ?
Ouais.
Okay. Est-ce que tu as connu cette autorité naturelle du daron qui te regarde et ensuite qui tourne le regard en mode « tu m'as tellement déçu ». C'est la pire autorité.
Tu me l'as dit, j'ai froid là. Écoute, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé. Mon père, il, pendant un temps, il bossait dans une imprimerie. Des grosses imprimeries offset avec des grosses machines et tout. Donc, tu sais, quand t'es gamin, t'adores voir ces trucs-là. Et il y avait des petites loupes pour voir les couleurs dans les couleurs colorées. Bah, c'est vraiment un truc, tu sais, quand t'es gamin, tu dis, ouais, je vais voir. Là, en fait, il n'y a pas que du noir, il y a plein de trucs.
Vois.
Et mon père, il me connaît. Il me regarde, il me dit ça, là. Ça reste là. OK. Évidemment.
C'est caché,
dans la poche. Sauf qu'après, je vais me laver. et mon père range mes affaires, qu'est-ce qui tombe de la poche ? La loupe. Et là, tu te dis, allez, c'est parti, reprise de voler dans les chicots et tout.
Oh merde, mauvais moment à passer. Mais vraiment peur de
ton
père.
Ouais, non, mais en fait, mon père, il a jamais été violent. Ouais. Mais tu te dis, s'il le devient,
ah ouais, ouais.
Ben, je suis foutu. Ouais, c'est vrai. Je suis foutu. Et donc, je m'attendais à ça, tu vois. Je m'attendais, je me dis, là, il va à son boulot, en plus, la honte, le truc. Enfin, tu sais, tu te fais tout ton film. Et il me parle pas. Il vient, il me jette mon jean comme ça, dans la salle de bain, il me regarde, puis il se barre. Et ce froid-là, en plus, j'étais tout nu. Donc, tu vois, t'as vraiment froid, quoi. T'es là, tu dis, ben voilà. Tu vois, l'autre, il te fait confiance.
C'est le pire truc.
Et toi, tu trahis ça comme une merde. Et c'est la meilleure des leçons.
Ben, j'avoue.
C'est la meilleure des leçons.
Mon père, ouais, il disait, si je te dis de pas casser le vase et que tu le casses et que maintenant il est cassé, je t'ai prévenu de pas le casser. Maintenant qu'il est cassé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est cassé. Je peux pas te prévenir de plus le casser. Maintenant, il est mort, le vase.
Par contre, je vais te mépriser un petit peu.
Psychologiquement.
Je vais te mépriser un petit
peu. Je vais mettre une fenêtre. Ouais, un jour, t'en parleras dans une interview, tu verras.
Exactement.
T'en parleras.
Tu feras ta psychanalyse de ça. Mais oui, mais parce que voilà, je connais pas ton père, mais je pense que
moi
c'est
non plus,
gens...
j'aime pas. Aujourd'hui, je veux dire... j'apprends ma famille qui reste encore vivante, qui me dit, parlez-moi de mon père, ils sont là, genre, oh, tu sais.
C'était un furtif.
J'ai l'impression que c'était un espion. Donc, tu peux te dire, je le connais pas, mon père.
C'était une couverture. t'es un enfant de protection.
Mais c'est la légende.
Ouais.
Ouais, j'ai des enfants à Reims, mais t'inquiète.
Ouais. Parce que je pense, oui, que les hommes, on évolue aussi. Et le rapport du père à l'enfant, aujourd'hui, moi je vois, j'ai plein de potes qui ont des enfants. On a tous eu des pères avec plein de défauts et plein de qualités aussi. Et je pense que nous, on a peut-être su les analyser un peu plus vite plutôt que les reproduire derrière sur les enfants. Et ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir quand même une bonne génération de gamins qui ont des pères qui tiennent la route. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que c'était pas forcément le cas. Pour plein de raisons, hein. Je suis pas en train de blâmer toute la génération des pères d'avant, hein. C'est pas énorme. Nous, on a compris, eux, ils savaient pas. Eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les cartes qu'ils avaient.
C'est vrai.
Non, il faut pas.
Je jette pas la pierre, mais juste, je dis juste que changer les couches, c'était pas si dur que ça.
Bien sûr que non.
C'était pas si dur que ça. C'est pas si compliqué.
Ah non, mais évidemment. Évidemment, t'avais tout un truc de moi, je fais pas ça.
Ouais, voilà, tu dis, ouais, c'est pas si dur que ça.
Non, mais bien sûr qu'ils pouvaient. Mais je te dis, encore une fois, le patriarcat fait subir des choses aux femmes
Évidemment.
Et conditionne les mecs dans des trucs qui les éloignent de ce qui les rendrait heureux.
Ah, c'est vrai.
Mais moi, j'ai du mal à blâmer avec 35 ans de retard.
Tu peux pas savoir, de toute façon, voilà, ce que t'aurais fait mieux à sa place.
C'est ça, j'étais pas là à cette époque. Je sais que moi, mon père m'a aimé et m'aime toujours et je l'ai ressenti. À partir de là, tout le reste.
Et puis même, c'est très noble de ne pas juger. Je trouve ça, bien. Je trouve ça bien de relever, mais pas juger, quoi.
Non.
Ouais, je trouve ça noble, hein. C'est bien. Hein. Bah non, je trouve ça très, très stylé. Là, tu écris un nouveau spectacle.
Oui.
Tu es en pleine. Au moment où on enregistre l'émission, tu es en plein rodage de ce spectacle. Tu écris, tu assembles, tu fais des choses.
Je teste.
Et là, tu seras, dès février 2024,
ouais.
Tu seras en train de jouer ce spectacle, ce nouveau spectacle.
Ouais.
Tu as beaucoup enchaîné. Parce que Ensemble ou rien, c'était il y a 3 ans déjà.
Ouais, même avant, parce que j'ai commencé avant le Covid.
Oui, mais après, t'as dû le mettre à jour.
Arrêter,
t'as fait pas mal
remettre
de choses.
À jour. Ouais, ouais, donc en tout, ça a duré 4 ans, enfin 6 ans moins 2 ans de Covid.
Mm-hmm.
Et tu sais, moi, je considère un peu ce métier comme un sport. C'est-à-dire que quand t'es dans une bonne lancée,
tout à fait.
T'es dans l'entraînement, tu sors d'une Ligue des Champions, tu te dis pas celle d'après, je la fais pas. Tu te dis,
tu es obligé de continuer. En plus, tu veux pas dire, allez, je vais aller prendre du beat sur le canap.
Non.
Je garde l'énergie dans laquelle je suis.
Je suis dedans, j'ai le verbe, j'ai les réflexes, les repères. Il y a une attente des gens. Est-ce que on sacrifie tout ça pour le bien d'autres projets, hein, parce qu'on a de la chance, on fait des films, des séries, des trucs, c'est super.
Une chance énorme.
Mais est-ce que je sacrifie ça? Je suis pas sûr. Je pense que j'ai vu le chemin de plein d'humoristes, tu sais, qui s'arrêtent 2 ans, 3 ans.
Non, Patrick Timsit, 13 ans, tu vois, 13 ans. C'est fou de perdre ses réflexes.
13 ans, tu vois, moi, 13 ans, je pense, je suis devenu facteur, je fais autre chose, quoi, tu vois, je suis plus du tout. J'ai besoin, ouais, de garder ce truc-là. Et je me sentais pas d'arrêter. Puis surtout, je me dis, les gens sont là. ils ont envie. On est dans une période où j'ai l'impression que ce que je raconte a un certain sens. Allez, on y va. On va pas attendre de prendre du recul. On n'en aura jamais du recul. Parce que tout ce qui va se passer derrière, tu n'auras jamais le recul. Ça ne va pas s'arrêter pendant six mois pour que Walidia puisse y penser. Ça ne va jamais s'arrêter. Donc autant...
C'est un spectacle qui est très porté sur l'actu.
Alors, pas l'actu chaude.
Non, mais l'actu...
Sur la vie, quoi. Sur les phénomènes d'actu. C'est-à-dire des phénomènes, en fait, plus tu te penches sur l'actu, plus tu te rends compte que c'est...
Les cycles.
Une toupie, quoi, qui s'arrête jamais et qui, c'est les noms qui changent, mais les phénomènes restent les mêmes. Les phénomènes restent les mêmes. Et sur le spectacle, contrairement aux chroniques, justement, je m'attarde plus sur les phénomènes. Je vais pas lâcher des noms, des trucs, parce que deux ans après, ce sera plus le même ministre, ce sera plus le... Donc, j'ai pas vocation non plus à me focaliser sur ces personnes. Ces personnes-là ne m'intéressent pas. L'appareil m'intéresse. Parce que ce soit lui ou l'autre, quand il va se retrouver sur ce siège-là, il fera la même chose. Donc, c'est pourquoi ce siège fait faire ces choses-là. C'est ça qui m'intéresse. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces gens dans ces sièges. Et je me dis que, voilà, analyser les phénomènes au long cours, dans le spectacle, c'est plus intéressant. Parce que mon spectacle que j'ai fini là, tu peux le revoir aujourd'hui.
Ouais, il a à peu près une ride.
C'est la même chose, quoi. C'est le même problème, c'est les mêmes trucs.
C'est la vraie différence entre un bon spectacle et un grand spectacle, justement.
Alors, je sais pas, parce que tu sais, justement, on se pose souvent la question, est-ce que les spectacles peuvent être intemporels? Et je pense pas, parce que l'humour évolue même plus vite que les humoristes. Donc il faut pas penser à se dire je veux que mon spectacle soit valable dans 10 ans parce que tu sais pas ce qui va se passer dans 10 ans et peut-être que ce que tu dis là ça va totalement basculer et faut pas voir comme ça, c'est donne ta pensée là de ce que tu vois là, de ce que tu comprends là. Et si c'est pas vrai dans 10 ans, il y en aura pour te le rappeler, t'inquiète pas. Hein. T'es les gens qui vont dire, mais tu te rappelles quand t'as dit ça en 92? Ouais, mais fallait me le dire en 92, en fait. Tu vois, si tu me le dis avec 38 ans de retard, ça marche plus. C'est trop tard. T'as pris le recul de tout le monde et tu viens me raconter un truc. Quand je l'ai fait, dis-le-moi. Si tu me l'as pas dit dans l'année où je l'ai dit, ça a plus de sens.
Ça, c'est un conseil que je donnerais aux jeunes humoristes qui se lancent et qui se disent, mais attends, je dois écrire un spectacle, qu'est-ce que je dois... Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que machin? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est un spectacle, en fait? C'est quoi? Un spectacle d'humour, un spectacle de stand-up?
Très bonne question.
C'est quoi? C'est toi? C'est une identité? C'est un propos?
En fait, c'est compliqué parce que quand tu démarres, déjà, tu étudies la technique. Tu étudies ce que les autres ont compris avant toi et que tu dois comprendre. C'est comme les bases de n'importe quoi. Donc, cette technique, tu es tributaire de ça. C'est-à-dire que selon ce que tu arrives à maîtriser, tu vas pouvoir faire tel ou tel type de vanne. Une fois que tu as maîtrisé la technique, tu vas pouvoir y insuffler ton propos, ce qui est propre à toi et ce qui va te différencier des autres. Mais ce propos, si tu as 22 ans, si tu en as 37, déjà, t'es pas du tout dans la même position, etc. Donc, quand tu démarres jeune, c'est vrai que c'est dur d'avoir un propos construit, etc. T'es plus sur ce qui se passe à un mètre de toi parce que c'est ce que t'as vécu.
Sauf si tu t'appelles Panayotis Pasco.
Ouais, mais regarde.
Ultra mature à 24 ans.
Capital culturel de dingue. Tu vois, c'est aussi là où t'évolues. Tu vois, la famille dans laquelle t'évolues, les moyens que t'as, etc., qui vont te donner ces choses-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc. Et je dénigre pas, hein. C'est juste que c'est une explication à l'intelligence qu'il a aujourd'hui et le savoir-faire qu'il a aujourd'hui. C'est le capital culturel que tu vas avoir avant. Et ça, s'il y a un conseil à donner aux jeunes humoristes, c'est ça, c'est de le faire grandir. Parce que tu ne feras rire qu'avec les mots que tu connais. Donc, plus t'en connais, plus tu seras marrant et plus tu seras précis. Et ça, c'est sûr que c'est comme ça que tu construis ton propos. Donc c'est vrai que quand tu démarres, avoir un spectacle tout de suite, c'est pas forcément intéressant. Moi, je m'en suis rendu compte à mes dépens. Hein. Mon premier spectacle, je me rends compte que c'est pas moi. C'est le stage. J'ai passé le stage. J'ai validé le stage. Tu vois, je sais faire ça. Je sais faire un running gag. Je sais faire une accélération. Bravo. Je sais faire.
T'as eu ton permis.
Voilà, j'ai mon permis. J'ai mon BSR de l'humour. Et voilà, mais t'es obligé de passer par cette espèce de validation technique-là. Sinon... Et après, t'inventes les tiennes. C'est quand t'inventes les tiennes que là, tu commences à maîtriser les katas.
Ça va, mon pote ?
C'est la honte qui fait que tu fais pas de bruit.
Bonjour. J'essayais d'être bien dans le cadre pour être poli. C'est ce qu'après on dit, mais au montage, c'est de la merde, tu dis bonjour, t'es là-bas.
Oui, c'est vrai.
Ça va, salut mon petit humoristico-gaucho, socio-politico-humoriste.
C'est bien. Oui, c'est chiant, hein, à dire.
Ouais, j'aime bien. Ça va mon petit beau gosso, brefo, non-chevelot, humoriste.
Ouais, écoute, ami. Ça va.
Ça, c'était plus relou à dire. Alors que gaucho, politico, socio, politico, humoriste, je l'avais.
C'est parce que t'es de droite, ça, c'est pour ça.
Ah oui, t'es bien de droite.
C'est vrai que je suis assez de droite.
Tu me donnes ton café?
Pourquoi?
Pour voir si t'es de droite.
Oui, c'est un café de droite.
Non, mais non, je sais pas, normalement.
Sauf que tu
non, c'est mon café, je l'ai mérité, c'est mon travail.
Non, mais tu devras lui rendre.
Ah, j'ai passé le test.
Ouais, c'est ça.
Tu devras lui rendre plus de café.
C'est ça, exactement.
C'est le fameux test du café. Et si j'avais dit, mais ce n'est pas du café? Tu crois que je vais exploiter des gens en Amérique du Sud?
Oh là là, il est vraiment,
là, il est vraiment gaucho, mais c'est du café. Donc
c'est pas un faux gars de gauche.
Je suis PS, c'est nul.
Ah putain, mauvais choix, mauvaise pioche.
Bah ouais.
On va jouer à devine de quoi on parlait.
Alors, c'est une interview.
Une interview, exactement.
Faite par Kian Kojandi, un humoriste. Je pense qu'il t'a demandé. Alors, comment t'écris tes blagues?
Ouais, c'est vrai qu'on a.
On était pas loin. Pas loin. Il n'a pas fait ça.
On écrivait justement de l'évolution de ses débuts de spectacle. Il disait que quand il a fait son premier spectacle, que c'était un peu un stage. On acquiert la technique au début d'humoriste.
Non, mais je m'en fous.
Ok.
Parce que lui, il voulait pas que ce
mais
soit.
Mais je
moi.
Trouve que. Moi, je
il voulait Nadine Morano, il t'a dit. Il
moi, je suis passif-agressif, je suis venu en retard pour signifier quand même que je voulais pas de Wally. Moi, je voulais Christian Clavier.
Ah ouais, on l'aura.
Moi aussi, je voulais lui.
On l'aura.
Et est-ce que tu arrives à estimer combien de fois, au passage, dans ces questions, il a dit à quel point t'étais formidable? Parce que c'est ça sa force. Il te pose
il
une question, il dit,
c'est fou,
je t'ai rencontré. J'ai rencontré il y a quoi? Il y a 10, 15 ans maintenant. Je t'ai connu, c'était tes débuts. Et puis là, maintenant, t'es un succès, un buzz. France
j'ai dit
Inter.
Que t'étais très noble. J'ai dit que
c'est vrai.
J'ai dit que très noble ce que tu pensais.
Noble, c'est pas mal.
C'est vrai. Non, il n'a pas dit formidable.
Un noble.
Donc tu vas le dire.
Formidable. Mais en plus, si on peut revenir un peu sur ton évolution, c'est qu'il y a un truc qui est très fort. J'ai l'impression que tu t'es, justement, tu t'es construit. Au début, t'étais très drôle. T'as toujours été très drôle tout de suite. Hein. Je me rappelle. Tu sais, alors pour la petite anecdote, on a fait un concours de jeunes humoristes ensemble à l'époque.
C'était humour en capital.
Que t'avais gagné.
Ouais.
Que t'avais gagné. La photo.
Donc que t'avais perdu.
Regardez, ah ouais. J'ai perdu.
Tu vois, c'est ça être positif. T'as pas dit que j'avais perdu. T'as dit que t'avais gagné.
Bah oui. Que
on avait des sacrés.
Mais il n'y a pas de gagnant dans ces concours. Les gens pensent que c'est un truc qui va jouer ta carrière.
Non, ça.
Non, mais les gens disent ta carrière va changer. Oui, tu vas faire une rencontre. Tu vas avoir un petit peu de désir. Mais après, c'est le long terme. C'est...
Tu es la preuve que perdre un concours, c'est pas perdre la vie.
J'ai fait que ça, perdre des concours.
Mais déjà, tu es participé, c'est bien.
Bah, j'adorais participer.
Non, mais c'est vrai que ouais, c'était une époque où j'étais en train de passer le BSR. Donc, je savais pas ce que je foutais. Chaque scène, c'était un espèce de truc de... Ah oui, d'accord, ouais. Tu me payes en plus.
Ouais,
magnifique.
Bien.
Tu vois, t'es vraiment dans ça où tout est un bonus.
C'était un monde où on découvrait qu'on était payé. Ouais. C'est là, genre, on est payé, parce qu'on était prêt à ne pas être payé à l'époque.
Ouais. C'est, tu te dis, en fait, t'es tellement dans une position d'espèce de joie comme ça de faire ce métier que t'as l'impression que c'est toi qui les escroques. Alors que c'est pas du tout ça. C'est eux qui se font de la thune sur ta gueule et tout ça, mais tu te dis, mais c'est bien. Ah, je me suis fait 180 balles quand même.
Alors, ils ont
10
rien
minutes, ils ont rien vu, les cons.
Alors, maintenant, t'es sur France Inter, t'es vraiment payé des millions.
Je suis à 150, tu vois, j'ai progressé.
T'as encore l'impression de l'écart.
Ouais, mais bon, là, c'est de l'argent des gens. Je discute pas avec ça.
Humoriste d'État.
Ouais.
Enfin, tu sais, Maurice fonctionnaire.
Ouais, enfin, moi, j'en suis à mon 66e CDD. Hein.
Donc, c'est vraiment la violation totale du droit français.
Niveau RH, un jour.
vous allez tous être requalifiés en CDI, ils vont être dans la merde.
Ah,
Donc, c'est vrai que j'avoue, imaginez vous requalifier en CDI.
Ah, bah écoute, tu me verras, je vais être de droite, du coup. tu vas me voir changer d'idée. Bah, j'ai trop de sous maintenant. Je peux plus vous dire
j'ai
ça.
J'ai bien réfléchi. J'aimerais revenir sur tout ce que j'ai dit les saisons dernières.
Parce que j'ai découvert des 6 caves. Bah, franchement, je comprends. Je comprends.
T'as vraiment, je trouve que tu t'es construit comme si t'avais énormément. Quand t'es revenu à un moment donné sur France Inter, il y avait un ton que t'as toujours eu. Attention, hein, t'as toujours été, tu t'es toujours un peu foutu de la gueule de tout le monde dans la société, que ce soit même des extrêmes.
Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il avait ce ton dans la vie et moins sur scène. Tu trouves ou pas?
Ça dépend, en fait. Au tout début, je l'avais. Et le problème, c'est que quand tu démarres sur des sujets comme ça, il y a un espèce de manque de notoriété, de légitimité qui fait que t'arrives peut-être pas à choper la confiance des gens. Donc je le faisais, et surtout je le faisais au Jamel Comedy Club, qui était déjà dans un état d'esprit très spécial. Et donc, quand je le faisais, ça marchait pas. Alors que si j'imitais un accent ou un truc, je voyais que j'arrivais à ramener tout le monde et à faire des grosses stats de rire. Parce qu'à l'époque, tu cherchais vraiment les stats. Tu veux des stats. Et donc, je me suis dit, OK, pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant, quand je dis ça, quand je parle de ces thèmes-là, ça marche pas. Donc, il va falloir que d'abord, je leur disais, hey, tout va bien.
D'abord, je dis bonjour, ouais, voilà, ça va les gars, on se présente, ça va. Hey, truc, c'est ce que voilà. Je pense en fait.
Voilà. Et d'un coup, je suis énervé. En fait.
Non.
Et donc voilà, j'ai dû reprendre un peu ça pour pouvoir dire ce que je voulais dire. Mais si tu regardes, par exemple, mes premiers sketchs sur On demande qu'à en rire, je suis en terroriste, en
oui,
dictateur.
Oui, c'est fou d'ailleurs.
Je suis le mec qui fait accoucher Carla Bruni. Je suis déjà là-dedans.
En dictateur africain.
C'est ça.
Tu dénonces déjà des affaires.
On demande qu'à en rire, t'étais déjà là. Hein. Moi, je parle de.
Ah, non, t'étais déjà.
Non, ça faisait un an que j'étais sur scène en demande qu'à en rire.
Ça faisait. Mais là, on s'est connus. Attends, c'est si vieux que ça.
2010.
Waouh. Wow.
Ouais. C'était un an avant.
Ah, comment le temps n'a rien. Enfin, je suis nul en temps, pardon. Moi, je pensais que c'était 2015, 2016.
Ah non.
Ça s'est arrêté en 2013, je crois, peut-être. Maintenant que ça, c'est 2012, 2013.
Maintenant que vous me le dites, c'est logique, puisqu'en 2015, 2016, on faisait bloquer Serge et tout. C'est ça,
exactement. Ça n'existait plus.
Rappelle-toi un peu de ta vie.
C'est, non, c'est le bordel.
C'est important. Mais ouais, donc oui. Tu vois, j'étais déjà là-dedans.
Ah oui, donc c'est vrai, c'était déjà le début. Enfin, voilà. C'était tes débuts.
C'est ça. Donc je faisais ça, mais c'est vrai que c'était compliqué de convaincre. Et puis j'avais pas la même expérience aussi.
Une assise, en fait. Il faut exactement. Attendre une assise, c'est ça que tu essaies.
Bah, il faut arriver et dire j'ai pas peur de ce que je dis. Et ça, les gens sont pas dupes. S'ils sentent que t'es un peu hésitant sur ces thèmes-là, ils vont dire attends, il est déjà pas clair. Je peux pas faire confiance et donner mon rire, parce que donner son rire, ça vaut quand même. Approbation, je peux pas te le donner comme ça. Donc, j'ai dû quand même un peu faire mes gages et enfin donner des gages pour qu'ils se disent ok, on peut l'écouter ce mec-là, il est là, il reste, ça va mieux, on peut investiguer sa pensée plus clairement. Et j'ai toujours pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il a fallu un peu de temps pour que ça s'installe.
En tout cas là, ça vraiment. Il y a des couilles, quoi. Non, mais vraiment, t'hésites pas, quoi. T'es extrêmement engagé, extrêmement intelligent. C'est, tu vois, quand il disait que j'allais faire des compliments, tu vois, j'y suis arrivé. Oh. Non, mais c'est intelligent et c'est fort et ça touche là où ça fait mal. C'est parfait, quoi. C'est devenu vraiment. Merci. Je trouve que t'as gagné en assise, tu t'es vraiment déployé. T'as eu une période où t'es dit, attends, je vais peut-être me construire aussi intellectuellement, comme tu disais, il faut aller chercher le background culturel, t'en parlais tout à l'heure.
Bah, j'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents qui m'en ont transmis beaucoup. Mm-hmm. Donc, j'avais quand même deux, trois notions de ce qui se passe autour de moi. Mais c'est vrai que le fait de vivre de ce métier m'a détendu, parce que d'abord, il fallait gérer le matelas, les pâtes,
le frigo,
le fait de ne pas dormir sous la pluie, tout ça. Une fois que tu as géré ça...
C'est vrai qu'une fois que tu as géré la pluie, qu'est-ce qu'il faut ?
Ça va.
Qu'est-ce qu'il faut gérer ?
Et donc, une fois que j'avais géré ça, je me suis dit, bah, ça y est, là, je peux prendre du temps, parce que le temps pour les livres, quand il faut construire ta vie financièrement, c'est compliqué. Tu n'as pas le temps de te plonger là-dedans. Enfin, tu as le temps, tout le monde te dira, quand on veut, on peut, Instagram.
Va à la bibliothèque.
Voilà. Mais des fois, tu n'as pas le temps. Et là je m'étais dit, je me suis forcé à rattraper mes lacunes, en fait. Il fallait que je les identifie d'abord, me dire, OK, ça, en fait, je ne connais rien, ça. Ça, j'ai rien compris. Ça, je sais pas. Ça, j'ai dû vraiment me faire un examen de conscience et me dire où est-ce que tu foires, où est-ce que tu comprends pas. Et si tu comprends pas, tu vas forcément raconter des conneries, parce que tu auras trop de biais et trop de barrières mentales pour comprendre ce qu'il y a. Donc, il y a des gens, ils ont taffé 40 ans, ils ont tout mis dans un livre. Fais l'effort de lire ce qu'ils te disent.
Tu vas gagner du
temps. Ils ont compris. Bah oui, ils te donnent 40 ans de travail. Ils te donnent toutes leurs analyses qui sont en plus validées après d'année en année. J'ai juste à lire ça et à retenir un peu. C'est un peu notre métier de lire et de retenir. Mmh. Donc, je me suis dit, fais ça pour être sûr de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Déjà que c'est compliqué. Si en plus tu rajoutes des conneries dessus, qu'il y a des gens qui doivent te défendre et que d'autres qui vont défendre les gens qui te défendent et qui vont défendre les contradicts. Ouais, vas-y. Ils vont être obligés de rajouter un réseau social.
Mais tu sais que t'es un média à toi tout seul. C'est-à-dire que des fois, moi, j'apprends des trucs dans tes chroniques. Tu vois, genre, j'aurais pas lu dans le journal celle-là. Tu vois,
parce que je fais un condensé, en fait, de ce que j'ai lu.
C'est un curateur, il vient nous donner des nouvelles du monde.
Ouais, je mets ma petite mise à jour et tout. Je fais, bah cool, c'est mes news, c'est mon newsfeed.
Bah
ouais,
écoute, en tout cas, je te dirai toujours d'où je l'ai pris, l'information en général. Je dis selon truc. que pour pas que tu crois que c'est
moi. Ouais, bien sûr.
Mais c'est un bon délire de, quand tu veux éviter un peu, tu sais, que les news te frappent.
Ouais, trop.
Tu sais, t'as rien demandé. T'es là, t'es allé, tu vas sur Instagram ou je sais pas quoi pour te détendre un coup et tu te manges une, tu vois. Donc, du coup, c'est une espèce de piège parce que du coup, tu dis, attends, j'ai envie de choisir quand je regarde. Donc, faut choisir quand tu regardes, faut aller vraiment sur actualité, mais des fois, tu le fais pas. Mais en vérité, tu suis un humoriste et l'humoriste, il va te donner la même info, mais avec un petit.
Avec une petite chantilly.
Un petit peu de chantilly, voilà,
un petit peu de sucre.
Un petit peu de sucre et t'as l'info et t'as quand même rigolé au passage. Le temps que tu sois outré, que tu sois triste, il t'a fait une petite blague quand même, tu fais ah, ok.
Ouais, il est gentil. Mais c'est vrai que, ouais, bah parce que on n'a pas un cerveau programmé pour accueillir autant de problèmes.
Est-ce que tu te sentirais de faire, tu vois, un peu comme ils font aux États-Unis, une hebdo que toi, présentateur, genre
à la Trevor Noah,
Trevor Noah, des gens comme ça.
Ouais, Oliver, c'est ça. John Stewart, le fameux ponte. Mais maintenant c'est Trevor Noah qui a repris la suite.
Salut à tous. Maintenant je vais vous faire 45 minutes avec des chroniques, des machins, des trucs. J'envoie le.
Ça pourrait être cool. On m'avait proposé ça pendant un moment, mais en fait le vrai problème que tu vas avoir, c'est que c'est la liberté éditoriale. C'est qu'il faut vraiment l'avoir à 100%. Et aujourd'hui, à part Internet, il n'y a pas. Tu peux pas avoir une liberté totale comme ça. On en fait les frais, nous, régulièrement.
Genre CNews.
Ouais, CNews, il m'appelle tout le temps. Mais le problème, c'est que c'est loin de chez moi. C'est juste
ah,
ça.
Voilà,
c'est ça. Aucun problème idéologique avec CNews. Vraiment, j'adore.
Là, il pourrait y avoir un équivalent. Bon, c'est un peu... Mais quoi, là, on enregistre en novembre. Je sais pas ce qui va se passer dans l'histoire, parce que cette émission avait diffusé plus beaucoup
en février.
En février, ouais. Mais bon, même France Inter, en ce moment, ça remue un peu. Hein,
ouais.
Mais France Inter pourrait faire une émission, te confier une carte blanche.
Là, il y en a, ils viennent de... Quoi?
Te confier une heure.
Non, mais même une émission web sponsorisée sur France Inter.
Ouais, enfin, tu vois. Écoute, pour l'instant, je suis bien dans mon petit format.
Ouais.
J'ai d'autres projets que je développe où je vais essayer de dire les mêmes choses, mais autrement.
On a besoin d'un guide, Wally. Prends la place, s'il te plaît.
Je sais pas quoi penser.
J'hésite à monter une secte. C'est vrai que ça, quand même,
je sais pas quoi penser, moi, du monde.
Plus d'argent avec ça, avec des fidèles qu'avec du public. C'est quand même vachement mieux. Mais non, justement, je veux surtout pas tomber dans le côté donneur de leçons, et c'est comme ça qu'il faut penser, et c'est comme ça qu'il faut être si vous voulez être du bon côté. Il n'y a pas de bon côté. Il y a le côté de la logique, où en général, tu as très peu de chances de t'en sortir si tu veux essayer de contrer la logique, parce que tu vas être obligé de partir dans des opinions qui n'ont plus rien à voir. Et il y a surtout la vérité. C'est-à-dire que quand tu restes factuel, si t'es pas d'accord avec moi, c'est que t'es contre la réalité. On va pas parler ensemble, ça va être trop long.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, si je te dis là devant moi il y a un micro et que tu me dis non, il y a une fourchette, ben d'accord, mets-toi là-bas, puis parle avec la porte parce que j'ai pas le temps, quoi.
Mais c'est pas une porte.
Je sais pas.
C'est un cactus. C'est un cactus.
Tu vois, c'est pas avec ces gens-là qu'il faut parler. Lui c'est Steven Popox 07 sur Internet.
C'est bon vieux Steven Popox 07.
Et voilà. Et donc, du coup, je suis pas... J'ai pas envie peut-être d'incarner non plus que ce truc-là, de dire, bienvenue dans la bonne façon de penser. Et on y va.
Les daily shows qu'on voit aux États-Unis, qu'on a essayé de refaire en France, qui n'ont pas vraiment fonctionné. Enfin, le petit journal, le quotidien, c'est une forme de daily show. Je trouve que des fois ça fait du bien aussi d'avoir des identifiants d'intelligence, quoi, des gens qui ont pris du recul, qui ont décortiqué, justement. Ça fait du bien. Quand je regarde Trevor Noah aux States, c'est des problématiques qui ne me touchent pas, qui ne me concernent pas. Et je trouve que c'est des gens qui remettent du fond dans un truc. Je me dis, c'était pas mon problème. Il y a une intelligence, il est venu me chercher, il m'a expliqué le problème, il a expliqué le fond de la pensée. Je me dis, ça donne foi en l'humanité.
Bah parce que ça donne une autre dimension au divertissement. C'est-à-dire qu'on est dans du divertissement, parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux, les Américains. Ça et les bombardements. Et le divertissement fait que...
Mais est-ce que ce n'est pas une forme de divertissement, au fond,
le bombardement ? Si. Alors, il vaut mieux se divertir de loin, quoi. Faut pas être à côté. mais c'est vrai que...
C'est une belle phrase. C'est un beau t-shirt, je trouve.
Il vaut mieux se divertir
à côté des bombardements. Pas à côté des bombardements, ça
va. Ouais, c'est mieux. C'est ce genre de poncif que j'adore. J'en ai plein des comme ça.
Si tu veux, il y a d'autres portes ouvertes dans le bâtiment.
La guerre, c'est cher, ça pollue, c'est pas bien.
La guerre, c'est cher et ça pollue.
Ouais, j'en ai plein des trucs comme ça.
C'est vrai que le bilan carbone de la guerre...
J'avais pas pensé à la guerre.
C'est incroyable.
C'est terrible. C'est...
Bah, ça dépend, parce que la guerre, ça tue des gens aussi. Et c'est des gens qui polluent.
Ouais, mais c'est comme si tu me dis...
Comme ça tue des pauvres, c'est pas des pauvres qui polluent. Donc, C'est quand la guerre tuera des riches, là, on peut.
Faudrait qu'on fasse la guerre aux riches.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Vous pouvez pas faire la guerre aux cheveux secs et aux points de cassante.
Moi, ce que je disais, c'est que l'écologie, évidemment, c'est juste que moi, j'ai été écolo par obligation. En tant que pauvre, parce que surveiller sa consommation d'électricité et de viande, on le faisait avant. Hein. Tu vois, on avait besoin de personne pour ça. Donc, c'est ce que je dis, pas d'oseille égale pas de CO2. C'est le théorème de Thalès. Tu peux pas lutter contre ça. Donc, voilà, j'ai aucune culpabilité par rapport à ça. On a fait déjà des efforts et on continuera à les faire.
Ouais.
Et surtout, on comprend. On comprend qu'il faut les faire. Et c'est sûr que aujourd'hui, ça crispe tout le monde de se dire « Il faut que je renonce à mon confort, là, que j'ai mis du temps à avoir, maintenant, il faut que j'y renonce. » Alors, il y a des gens qui ont plus de confort que toi, déjà, où il faudra aller les chercher, mais c'est un tout, c'est-à-dire que c'est une inertie. Si on débloque cette force d'inertie où tout le monde se dit « C'est comme ça qu'on doit le faire », et ben même ceux qui refusent ça n'ont pas le choix de le faire. Mais c'est
ah, donc ça. Toi, t'es dans le camp, t'es pas dans le... Je fais des camps parce que t'es dans le camp de ceux qui disent il y en a qui disent non mais moi je fais rien tant qu'on n'aura pas arrêté les gros industriels
les
défoncent tout et les gens qui prennent l'avion tous les trois jours.
Moi, je
mets rien dans la poubelle jaune. Toi, tu dis soit le colibri, soit le changement que tu veux voir dans le monde.
C'est aucun des deux. C'est-à-dire que c'est un tout. C'est-à-dire évidemment que t'as.
Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y en a qui, au nom du fait que c'est pas le cas actuellement, disent je ferai du tri plus tard, ça va déjà aller choper les mecs qui prennent les jets.
Mais ce qui n'est pas faux, dans le sens où il y a des trucs plus urgents que ta poubelle et ta consommation de viande. Tu vois, évidemment qu'il faut changer ça. Parce que c'est par là. Si tu veux, si tu attends que ce soit le gouvernement qui fasse changer les gros, prends ton temps. Hein, prends une chaise, des vivres et regarde le truc se passer, il ne se passera rien. Donc, c'est par ta consommation que tu vas les contraindre à changer. Si toi, tu exiges que ça, ce soit différent, etc., si tu arrêtes de donner ton argent à ces gens-là, ils le veulent, ton argent. Donc, ils changeront. Tu le vois, au début, aujourd'hui, c'est que du greenwashing. C'est « Non, mais regardez, ça, c'est plus en plastique, c'est en carton. Ouais, ok, super. Mais, » mais forcément, si tu veux qu'ils changent et que tu t'attends à ce qu'ils changent, ça veut dire que tu attends à ce qu'il y ait une autorité qui les fasse changer. Cette autorité-là, ils vont exactement dans le même sens qu'eux. Donc, il ne se passera rien. C'est pour ça qu'il faut que toi, pas toi, mais l'individu, force la consommation et la vente à changer. Parce que s'il n'y a pas ça, ce ne sera absolument pas les gouvernements qui vont faire quoi que ce soit. Tu regardes la COP, je ne sais pas combien ils en sont, 28, 29, 30, où les mecs, ils arrivent tous en jet et c'est sponsorisé par Coca. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, on se revoit à la 29, et puis voilà. Donc
c'est la version écolo de la blague de Coluche, dire qu'il suffirait que les gens arrêtent d'en acheter pour que ça se vende plus.
Ben oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur puissance ne vient que de ta consommation.
Donc c'est-à-dire que le vrai pouvoir est dans le porte-monnaie, quoi.
T'es un consommateur ou quoi?
Waouh!
Et
bien sûr que oui. C'est-à-dire que forcément, comme le dernier de la chaîne alimentaire, c'est le consommateur, c'est celui qui prend. Alors, c'est pas de sa faute s'il consomme mal. Parce que moi, des pubs pour les 4x4, on a fourgué pendant 25 ans. Maintenant, je le veux, le 4x4. Parce qu'on m'a dit, c'est la liberté, la bagnole, regarde. Il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de place pour se garer, c'est magnifique. On m'a dit ça pendant des années. On m'a dit, il faut que tu vives comme 50 Cent pour être heureux. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai été conditionné par ça, donc je veux ça. Maintenant, tu te dis, est-ce que je ne peux pas prendre du recul par rapport à cette consommation? Je ne changerai pas tout. Je ne sais même pas d'où il vient ce pull. Tu vois, donc je ne suis pas un ayatollah de « il faut faire comme ci, comme ça », etc. Juste, à un moment donné, si tu es lucide, il dit, oui, si on arrête d'acheter du coca, Coca arrêtera de faire du coca et fera autre chose. Mais c'est compliqué d'arrêter. C'est bon, le coca, il y en a, ils vont te dire, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien, je n'ai pas envie de m'enlever mon coca, j'ai que ça. Tu vois, je comprends tous les points de vue, moi. Juste, si tu restes pragmatique, il faut peut-être arrêter d'acheter les merdes qu'ils nous envoient pour qu'ils arrêtent d'en faire. Et qu'ils en fassent d'autres. Même, tu vois, même s'ils continueront, tu sais, ils vont enlever un petit truc. Ils vont dire, j'ai enlevé 1%. Quand ils disent, j'ai enlevé 25% de sel de mon jambon.
La tonne que tu mettais au début. Hein.
C'est-à-dire, pourquoi t'en as mis autant, en fait? Si tu peux l'enlever. Et ils t'enlèvent 25% de sel, et en plus, ils te le vendent 25% plus cher, parce qu'ils ont enlevé du sel. Donc, ils t'enlèvent un truc, mais ils te le vendent plus cher.
Mais c'est vrai, en plus.
Tu vois, donc, ils trouveront toujours une carotte, ça, c'est sûr.
Ça me l'a fait avec mon déo, je crois. Il y avait écrit maintenant sans aluminium de je sais pas quoi.
Ouais, mais
et vraiment, j'étais là.
1,60€ de plus.
Attends, depuis... depuis 10 ans que je le mets, en fait, il y avait de l'aluminium.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je sais pas, ils l'ont dit fièrement. Je t'ai dit, mais attends, pourquoi vous mettiez de l'aluminium
sans paraben,
dans mes essais?
Sans paraben, c'était le truc.
Ouais, c'est ça. Si tu fais, bah, il y avait ça avant. Ah,
mais c'est comme les, tous les E. C'est arrête de m'appeler ça E112. Dis-moi ce que c'est. Parce que E112, je sais pas ce que c'est. Glycosate de sarfentatium, machin. Voilà. Là, je vais avoir peur.
Bah ouais.
E112, je sais pas. E112.
Vrai, bah ouais,
je me dis, tu l'as classifié, tu sais ce que c'est. C'est bon, c'est dans un classeur, tout
tu
va bien.
Sais, tu sais, on pourrait même les Nutri-Score. Tu sais, il y a A, B, C, D, E. Bah, tu vois, A, même il y avait des trucs qui étaient genre des cornflakes, qui étaient en A, alors que c'est gavé de sucre et que c'est pas bon pour la santé.
C'est de l'aspartame.
Enfin, même, ou de l'aspartame, tu vois. Mais non, mais je sais même pas. Il y avait vraiment un truc très, très fort. Et je me dis, mais pourquoi ils mettent pas oui? Non.
Ouais.
Non.
Parce que toi, tu veux un guide.
Non, mais
toi, tu veux un gourou.
On a besoin de toi, Wally. Je fais une émission sur le Nutri-Score.
Quand tu fais tes courses, t'appelles Wally.
Wally.
Est-ce que je peux acheter?
Les Frosties me font bien envie.
Mais le Nutri-Score, en plus, tu sais que les marques se sont battues pour que ça n'existe pas.
Bah, j'avoue. Et puis, ils se battent maintenant, ils se battent pour le, je pense, pour le.
Pour le sponsoriser.
Pour le décaler.
Avec Coca-Cola. Le Nutri-Score. Imagine l'aberration. C'est Coca-Cola qui a acheté justement un truc des laboratoires, des mesures.
Il y a plein de labels. Par rapport au Coca. C'est-à-dire, si c'est un peu moins sucré que le Coca, c'est bon, ça passe. Mais non, mais c'est ça, c'est qu'il y a. Aujourd'hui, là, les Nutri-Score et les trucs... Enfin, tu le sens que tout le monde a envie de consommer mieux. Tout le monde a envie de ça. Maintenant, il faut s'y mettre. Et c'est... Encore une fois, il y a des priorités que t'as. Quand, si t'as des gosses à nourrir et que t'es au SMIC, le truc bio, tu vas pas pouvoir l'acheter. C'est sûr. Donc, ça passera aussi par donner du pouvoir d'achat aux gens, etc. Enfin bon, on va pas faire tout le programme politique truc, mais ça passe par ça. Tu peux pas faire peser ça que sur les consommateurs, comme tu peux pas faire peser ça que sur les gens qui sont complètement déconnectés de ça. Eux, il va falloir les arrêter aussi, mais ils s'arrêteront pas de même.
J'ai assisté à un TED il y a à peu près 4-5 ans et le mec expliquait que c'était pas compliqué de mettre le plastique dans la poubelle jaune parce qu'après on pouvait transformer le plastique en billes en plastique et voilà. Et il disait genre, mais c'est pas compliqué quand même. Et c'était un peu agressif. Et je me suis rendu compte que c'était une méthode pour culpabiliser.
Bien sûr.
Et c'était une manière de culpabiliser, de créer une sorte d'éco-anxiété, de dire je te culpabilise. Et en fait, de te dire indirectement, le problème c'est toi.
Ben voilà.
Et je trouvais ça fou de dire, bah merde. Et puis moi, je sortais là, je fais genre, ben ouais, c'est vrai, il faut que je mette tout dans la poubelle jaune, c'est important. Alors, oui, je le fais.
Parce que tu veux un guide, toi. Il t'a gueulé dessus, t'as fait, ok, je vais le faire. Tiens, il veut juste un guide.
Juste qu'on dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais. Si c'est bien, c'est ok, si c'est pas bien, c'est pas bien.
Mais parce qu'ils adorent faire ça, c'est toujours de ta faute.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ta faute.
C'est toujours de ta faute. Alors que pas du tout. Mais, et même cette histoire de plastique, c'est pas toi qui a décidé qu'il y ait du plastique.
Non.
C'est pas toi qui a décidé que les résidus de pétrole allaient devenir des sacs parce qu'ils savaient pas quoi en faire pour encore gratter de la thune sur le pétrole qu'ils ont pris. Donc c'est pas ta faute.
Mais si on va pas gâcher le pétrole non plus.
Bah si.
Réfléchis un peu.
Laisse les dinosaures morts depuis
des siècles. Tu veux gâcher tout le reste de pétrole.
je veux le
laisser. C'est du gâchis.
C'est pas très écolo, excuse-moi, de gâcher le pétrole.
On gâche pas.
C'est vrai.
Il reste un peu de pétrole, on fait des sacs.
Mais voilà, et ces mecs-là, ils vont te fourguer des trucs et te faire croire qu'après, le fait que tu les utilises, c'est de ta faute.
Mais ça marche un peu sur Ken, parce que Ken, il s'est dit, ok, je vais trier.
Mais après, c'est quand j'ai lu un article derrière sur les gens qui te pointaient du doigt, et en fait, j'ai fait, ah oui, c'est vrai que le gars, en fait, c'était sa méthodo. Et que c'était une méthode utilisée. Alors, je sais pas si c'est, on peut parler de lobby, on peut parler de gens dans des bureaux qui se disent, on va essayer de faire passer une info comme quoi c'est la faute des gens. C'est-à-dire que. Non, même
je pense
si...
que c'est plus du militantisme, c'est une forme de militantisme de dire, mais c'est quand même pas compliqué.
Non, mais j'ai appris que c'était une technique utilisée par les grands industriels pour. Tourner le au lieu de que le projecteur soit sur
on
va payer des gars.
Ok, moi je croyais que tu t'étais dit ok, je vais faire le tri, merci.
Non, mais moi je le faisais déjà le tri, mais ça me rajoutait une, j'étais genre non, bah non, c'est, oui. Tu vois, le moment où t'as un peu la flemme, tu dis
bon là, non, mais clairement, le pot de yaourt, il est pas très propre. Je le mets où? Je le mets dans la poubelle verte.
Il chie par terre. Il chie par terre et après il t'engueule parce que tu laisses traîner les crottes.
C'est ça.
J'ai bien compris. Non, mais au lieu de comme ça, ça détourne le.
C'est ça. Et je trouvais que c'était une technique. Et je me dis, quand j'ai appris, il y avait un journal, je sais plus quel.
Figaro,
on vous ment.org. C'était, mais en tout cas, il nous ment.
La vérité secrète.
La vérité secrète. .du parce que c'est
.ch .ch
c'est
là où ça va, c'est ch.
Et l'idée c'est de se dire waouh, en fait ils m'ont instrumentalisé dans la colère et ils m'ont tombé sur les épaules. J'étais là, genre,
mais en plus de l'autre côté ils font ce que dit Wally dans l'autre sens.
Ouais.
Ça veut dire qu'ils disent, mais c'est pas de notre faute si les gens ils achètent ça.
Ah, c'est de la,
les gens ils veulent
des responsabilisations
permanentes. S'ils voulaient pas de plastique, ils achèteraient pas des bouteilles d'eau en plastique. Donc,
on ne fait que rendre. Les bouteilles en verre, elles coûtent 18 euros. Donc, on va acheter les bouteilles en plastique.
On ne fait que rendre service.
Roman avait une très très bonne blague. Roman Frayssinet disait moi, maintenant, je propose un truc. C'est tu veux des gâteaux. On mettra pas d'emballage. Tu te démerdes. Tu vas au magasin et tu te démerdes. Et tu les ramènes chez toi, tes pépitos. Tu vois ce que je veux dire?
C'était comme ça.
Mais en vrac, quoi.
Avant, c'était comme ça. C'était tout était dans des paniers. Même les boissons, c'était des réservoirs. Tu venais avec ta bouteille, tu te sers et t'y vas. Là où ils ont voulu changer tout ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas nous. C'est pas moi qui ai dit, mais des plastiques autour des bananes. Personne t'a dit ça.
C'est une pomme dans un truc en ça. Donc fait toujours mal au cœur.
C'est ça.
Mais le pire, c'est la banane. La banane, c'est fou. Une peau que tu manges pas.
Vraiment, le truc fait exprès par la nature qui a fait ça depuis des siècles. Et t'as Jean-Jean, qui un jour est arrivé au conseil d'administration et qui a dit, dans du plastique, comme ça on va pouvoir les transporter mieux.
Il a dit, ça fait plus 3% sur des milliards. Donc je pense qu'il a raison dans le système où il est.
J'ai aussi des actions chez Total et c'est Total qui fait le plastique. Donc on va leur faire une commande de plastique. Vous allez perdre de l'argent, mais moi j'en regagne de l'autre.
Mais toi, tu mets des coups de pied dans les fourmilières ou quoi?
Moi,
t'es un vrai ouf.
On est dans une mare là, tellement on a mis les pieds dans la mare.
Moi, je jette le pavé. Pas dans la poubelle jaune, moi, je le jette dans l'évier.
Mais du coup, comment tu fais, puisque c'est quand même un de tes talents les plus prégnants quand on t'écoute, c'est que tu, sauf quelques personnes qui te traitent de bobo gaucho, etc., tu n'es pas culpabilisateur, mais tu parles de sujets qui sont quand même des sujets sérieux, importants, et comment t'appréhendes le fait de dire « Ok, je vais parler de ce truc, quand même au fond de moi, ce que je veux, c'est transmettre un message et pas qu'il soit dilué. Comment tu fais pour pas le diluer dans ta blague et pas te retrouver avec des gens qui se tapent juste une barre où tu dis, ah, peut-être mission ratée, j'ai là. J'ai voulu parler de la guerre et j'ai juste fait rigoler tout le monde des victimes de la guerre. Où est-ce que je dois me situer, tu vois? Est-ce que déjà c'est une question que tu te poses et est-ce que c'est une réponse que tu trouves? Et si oui, laquelle? T'as 20 minutes.
En fait, j'ai un principe de construction. C'est que déjà, quand je parle de quelqu'un ou d'un groupe, etc., je me dis, est-ce que tu ferais cette vanne devant lui et sans honte, et qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce que ça lui procurerait comme sensation? Donc déjà, quand tu fais ça, tu as moins de chances de te tromper parce que tu te dis, voilà, si je veux faire une blague sur le handicap, bah, je vais dans une association où il n'y a que des handicapés, vas-y, fais-la. Et si tu te sens de la faire, et si surtout si tu penses qu'elle va leur faire du bien, c'est que logiquement, déjà, t'es dans le bon sens de la vanne. Ensuite, l'effet dramatique, tout simplement, pour pas avoir le rire placé au mauvais côté, je me moque rarement des victimes. En fait, je vais plutôt me placer sur ceux qui ont rendu ces gens victimes. Et si tu tapes sur eux, à la limite, même si tu te trompes, c'est pas grave. Parce que tu vas quand même... Je pars du principe que s'attaquer à des gens de pouvoir, c'est finalement la chose la moins risquée en termes d'humour. C'est risqué derrière, mais c'est en termes d'humour, tu vas sur les gens qui créent le mal-être, qui crée les victimes, qui crée les accidents, qui crée les guerres, qui crée... Moi, j'ai aucun problème à leur taper dessus, quel qu'il soit. Ouais. Et c'est pas donner des leçons, c'est juste essayer de regarder en haut au lieu de regarder à côté pour chercher des coupables.
Oui, mais tu vois, le risque de les rendre sympathiques ou de, comment dire, associer le rire...
Des guignols.
Ouais, voilà, ouais. Super Menteur, par exemple, avec Chirac, où tu sens que les guignols, au fond, ce qu'ils voulaient, c'était avertir toute la France que le mec mentait clairement. Et tout le monde a dit, il est sympa, ce Super Menteur. Super Menteur,
Super Menteur. Ah, mais les médecins, Chirac vous aime passionnément.
Alors, pas autant que l'effet supplémentaire, mais tu vois, ce risque...
Fou, ce phénomène était dingue.
Ouais, ce risque, entre guillemets, de rendre sympathique ou de... Ou, tu sais, limite, on se dit, oh, vivement que machin refasse un truc, je suis pressé d'entendre la blague de Wally, quoi.
Ouais. Alors, je pense pas que les gens se...
Ah si, moi, tout le temps, je suis là, ouais, putain, j'espère qu'il va y avoir encore un problème.
Non, mais parce que, justement, ce qui nous manque aujourd'hui, et là, ça va être une attaque sur les journalistes, mais c'est un manque de décryptage de la parole politique. Aujourd'hui, tu regardes, dès qu'il y en a un qui va s'exprimer, toujours, c'est... migrants, beaucoup quand même. Ils sont dans une espèce d'acceptation du déroulement, du discours, etc. Sauf quand c'est des mecs de gauche, là, par contre, ils vont bien réagir sur tout ce qu'ils disent. Donc, il manque ce décryptage. Et je pense pas que ce décryptage rende les gens dont je parle sympas. Au contraire, ça donne peut-être un peu plus de transparence à ce qu'ils racontent. Et je suis conscient que les gens n'ont pas un métier qui est de la même nature que le mien, c'est-à-dire qu'ils ont moins de temps pour analyser, pour regarder, pour se rendre compte qu'en fait, là, il a dit ça en 2023, mais en fait, en 2021, il était complètement ailleurs. Tu n'as pas le temps de faire ce travail, qui devrait être le travail des journalistes. Ils n'ont pas envie de le faire. Enfin, pas tous, mais une grande partie n'a pas envie de le faire et n'est même plus payée pour le faire. Donc, ce décryptage-là permet au moins de te recentrer sur le propos qu'il a tenu et ne pas te faire avoir par la rhétorique, ne pas te faire avoir par cette espèce de phénomène d'oubli qu'il n'y a plus aujourd'hui avec Internet. Hein, aujourd'hui, tu peux retrouver n'importe quel discours rapidement. Et je n'ai pas l'impression que ça les rende sympathiques, mais au moins, ça les rend clairs dans ce qu'ils veulent dire et dans ce qu'ils font. Et comme leur boulot à eux, c'est justement de brouiller tout ça et de te faire croire que tout ça est pour ton bien et que finalement, ils n'y peuvent rien s'ils n'y arrivent pas, les pauvres. Ils n'ont que 5 ans. Donc, rendre clair ce discours, si tant est que j'ai un rôle, ce serait ça. Et encore une fois, je peux me planter, je peux comprendre à travers, je fais de l'humour.
Non, mais pour moi, tu te plantes pas, tu y arrives. En tout cas, tu y arrives 99% du temps. Et ma question, c'était comment? Mais peut-être que tu n'es même pas dans une analyse de comment je fais. En tout cas, tu es en train de me répondre.
Oui.
J'entends tes réponses. Mais tu vois, ce truc de, justement, comment éviter de les... Tu dis, je ne pense pas que je les rends sympathiques. Or, je ne t'ai pas dit, tu les rends sympathiques.
Bah, je ne le sais pas.
Qu'est-ce que tu évites ou qu'est-ce que tu fais pas ou qu'est-ce que tu... ça se trouve, tu n'as pas la réponse parce que tu le fais d'instinct et avec ta logique à toi. Mais ça m'intéressait, ce truc, parce que c'est un truc qui est tu vois, par exemple, c'est un truc que beaucoup de gens vont te reprocher dans l'autre sens. Ça veut dire que, justement, quand je parlais de ouais, Bobo Gaucho, France Inter, nanana.
Bah, surtout qu'ils n'écoutent pas ce que je dis sur la gauche, c'est ça.
Non, c'est ça. Mais, non, mais surtout, ils vont te dire, non, mais tu les rends sympas, t'es plus sympa. Tu vois, vu qu'eux, ils sont dans leur. Ils se sentent attaqués quand tu tapes d'un côté et pas quand tu tapes de l'autre. Eux, ils vont te dire, mais tu le rends trop sympa, machin. Ouais, machin, on t'a pas entendu parler de lui. Wallabot. Tu vois, machin.
Le Wallabot.
Le Wallabotisme. Le
Wallabotisme.
Wallabotisme.
Wallabotisme. Ouais, mais le truc, c'est que les tutoriels d'anglais de Navo sur la chaîne en tutoriel.
Ça, t'as du mal à te faire.
Je parle hyper bien anglais, mais je veux que les Français me comprennent, donc je parle l'anglais des Français.
Wallabot.
J'ai dit Wallabot. Après, je fais, non, faut dire Wallabot.
Excusez-moi, j'ai fait une blague.
Ça, t'as du. En fait, ça, ils ont du mal avec ça.
Mais tu vois, ça, tu dois pas attaquer, c'est ce qu'il a dit. Moi, toi, t'es puissant par rapport à moi. T'es mon patron, c'est toi qui me paye.
C'est pour ça que je m'excuse.
Tu vois, tu dois pas attaquer. Non, moi je peux te défoncer.
Mais
crie-lui
dessus, apparemment ça marche.
Et j'y prends aucun risque.
Et moi je suis là genre, oh, je suis tellement sympathique,
voilà,
maintenant.
Ça c'est bien, ça c'est ce qu'il,
oh,
ça, ça, c'est ce qu'il faut faire.
Oh, je suis sympathique.
Ok, donc pas de stratégie précise, tu vas pas nous donner un cours d'écriture, de attention,
non,
je vais parler de machin.
Il a répondu quand même. Dans
non, mais je dis pas qu'il a pas répondu. C'était, je m'excusais à demi-mot, je présentais mes excuses à demi-mot, de lui demander un truc très très précis, genre fais-moi une masterclass de comment t'évites de rendre sympa à quelqu'un.
Pour préciser ce que j'ai dit, en fait, dans tout ça, si tu t'en réfères à la logique, c'est-à-dire vraiment où tu essaies de te débarrasser de tes biais, tu dis, voilà, évidemment, j'ai pas de sympathie pour Sarkozy, mais c'est pas ça l'important, c'est pas moi ce que je pense de lui, c'est ce qu'il a fait, et la logique de la justice par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, si tu restes là-dessus pragmatique, etc., tu ne peux pas tomber dans le whatabout. Parce qu'il n'y a pas de whatabout, on te parle de ça. Donc, reviens à ça. Moi, je te parle de ça. Ouais. Et si tu veux tomber dans le whatabout, je vais te trouver un truc que j'ai dit juste avant sur un autre qui n'a rien à voir avec ce camp-là. Parce que justement, je reste dans la logique. Pas dans... Moi, je suis apartide. Je n'ai pas de parti politique. J'ai une pensée, mais j'ai pas de parti politique. Je soutiens aucun parti et je m'éloigne du plus possible des politiciens parce que leur gestion de carrière m'intéresse pas. C'est des gens que il y en a pas un aujourd'hui que je vois comme un guide. Tu vois, il y en a pas.
C'est là où c'est bien dangereux d'ailleurs.
Ouais, non, mais non, je les sens pas comme ça. Il y a du bon chez plein de gens. Chacun a une petite idée sympa à droite, à gauche. Mais je ne m'attache à aucune personnalité politique. Et il y a aucun camp politique qui peut dire oui, il nous soutient. Ça, c'est impossible.
J'ai une question assez basique. Mais je pense que tu vas apporter une réponse qui est intéressante. C'est quoi la politique?
Alors, il y a
parce qu'aujourd'hui, ça veut. Oui. Il y a la politique politicienne, la carrière, il y a plein de choses derrière. Mais c'est quoi être politique?
Y a la base de la politique et il y a ce qu'ils en font. La politique, à la base, c'est régler les conflits sans violence. C'est à ça que ça sert, normalement. À réguler la vie de la cité avec des idées plutôt qu'avec des épées. Voilà. Bon. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'ils font du tout. Aujourd'hui, la politique, à mon sens, encore une fois, elle est au service de l'industriel, elle est au service de la finance, elle est au service du commerce, elle est régie par ça. Et du coup, elle n'est plus au service des gens, si tant est qu'elle l'ait déjà été. Mais elle n'y est plus, elle n'est plus du tout, elle ne remplit plus son rôle de régler les conflits, puisque plus elle intervient, plus il y en a. Donc ça, c'est l'antithèse de ce à quoi ça sert. Et aujourd'hui, pour que la politique redevienne au service des gens, il faut que les gens, je pense, s'en réemparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de gens que je croise, ils disent « Ah, j'en ai rien à foutre de la politique », qui se cachent un peu derrière cette phrase qu'on adore, hein, qui dit si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. C'était vrai à cette époque-là, dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on le voit que l'abstention ne les empêche pas d'avancer. C'est au contraire, c'est encore plus simple et ils ont qu'à se concentrer sur des niches de votants pour faire ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, il faut se réemparer de la vie citoyenne parce que ce que je dis tout le temps, et j'en parlais surtout dans tout ce qui est quartier populaire, etc., c'est le jour où vous vous inscrivez sur les listes et que vous participez à 2-3 élections, l'ascenseur, il va remarcher parce qu'ils auront besoin de vous cette fois-là, parce que vous allez pouvoir faire basculer une élection locale, etc. Évidemment que quand tu vois une élection présidentielle, tu te dis « mais ma voix, moi, c'est quoi ?» Le problème, encore une fois, c'est cette masse critique-là qui oublie qu'ils sont pleins.
Mais du coup, si t'es derrière aucun parti, mais que tu penses qu'il faut voter, comment tu fais pour voter ?
Déjà, tu t'inscris.
Non, mais toi ?
Moi, je pense qu'il faut voter parce qu'il faut montrer que tu existes et que tu as voix au chapitre.
Oui, mais la plupart du temps, au moment de voter, c'est le représentant d'un parti.
Mais c'est pas grave, parce que là, on dit oui, personne ne nous représente. Ce qui est vrai, personne ne te représente puisque tu votes pas. Ils ont aucun intérêt à rentrer dans ton prisme puisque tu ne votes pas. Donc, ils vont pas te parler à toi.
Mais pour qui tu votes si t'es pas d'accord avec les partis en place ?
Il faut s'inscrire d'abord. C'est être inscrit, participer une fois ou deux. Participer, ça veut juste dire je viens, même je vote blanc. Mais mon nom, il est sur la liste de j'ai participé, j'ai voté. C'est un phénomène sur le temps long. C'est pas le jour où tu vas t'inscrire à la liste électorale que tout va changer. Mais le fait de montrer que tu participes, que tu es là, que tu participes au processus de décision, va faire que le discours va s'adapter. Parce que ce sont des industriels comme les autres, les politiques. Ils ont besoin de clients. Tu sais que quand tu votes... parfois, même ne serait-ce qu'une voix égale 1 euro et quelques de pour ton parti. Ils te voient comme ça. Eh bien, pour que ça se transforme à ton avantage, participe. Dis-leur, tu veux mon euro 60 ? Vas-y, parle-moi bien. Parle-moi bien.
En gros, c'est viens à la réunion de copro ou viens au syndic.
Fais-moi des fois.
T'en as marre qu'il y a des cafards, mais tu vas jamais. Viens au moins une fois.
Viens voir. Pour gueuler. Parce qu'on l'a vu, rien faire, ça sert à rien. Ça, c'est bon. Tu pouvais t'en foutre. D'ailleurs, ceux qui sont « vas-y, on s'en fout, on vote pas », c'est des gens pour qui, en vrai, la vie politique n'a pas d'incidence. C'est c'est que t'es pas si pauvre que ça, t'es pas issu de telle ou telle minorité. Donc, en vrai, la politique t'impacte pas. Donc oui, tu peux dire « vas-y, je vote pas, j'en ai rien à foutre ». Oui, mais il y en a, ils peuvent pas se permettre ça. Il y en a, ils peuvent pas se permettre d'en avoir rien à foutre parce que c'est les premières victimes de ces gens-là. Donc, participe, mets-toi dedans. Parce que de toute façon, ne rien faire, on l'a essayé, ça ne marche pas. Donc on est allé au bout du processus de « je m'en éloigne et je ne les calcule pas ». Alors que si tu participes, tu montres qu'aujourd'hui, tu vas participer au processus de décision, leur mécanique à eux, elle, elle, elle les obligera à faire des discours. J'ai pas dit à faire des sanctions parce que j'ai pas
oui, t'étais très clair,
Déjà à faire des... ça passe par le discours. La société change par le discours.
En fait, c'est intéressant, c'est la même logique que tu as pour les industriels, pour
c'est pareil.
Que ce soit Coca ou le futur président, faut être son client et consommer de façon intelligente pour qu'il se plie, quoi.
Il soit obligé parce que on voit bien qu'ils n'ont pas d'honneur, ces gens-là, tu vois, ils s'en foutent, ils ont 15 procès à la gueule et puis ils viennent te voir, ouais, mais je trouve que le mec en scooter, quand il n'a pas de casque, c'est dangereux. Eh oui, mais bon, toi, t'as 36 prises illégales d'intérêt, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu viens me parler de morale? Tu vois, donc l'honneur, c'est pas là-dessus que tu vas les avoir. Tu vois bien, il y avait encore là, alors cette émission, elle est à l'époque de la marche contre l'antisémitisme. T'as le RN qui est là.
Ça, c'est incroyable, c'est incroyable ça.
Et qui est applaudi par des gens. Donc tu vois que c'est l'histoire d'honneur, on s'en fout. C'est pas ça qui va les faire changer.
Alors, je crois que c'est vrai, hein, mais je crois que ça a été déclaré dans un média. Je vais pas parler de lui parce que j'ai pas envie de donner un once de allez vous renseigner sur lui, mais il a dit Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. J'étais là genre quoi?
Alors que lui-même le disait. Non, mais il le pensait pas.
Non, mais vous connaissez Jean-Marie.
Ceci dit, dans la vraie logique, il est peut-être même pas antisémite vu qu'il s'en bat les couilles. Lui, il veut juste être élu.
Il veut juste la logique, t'as peut-être raison.
Tu vois, c'est qu'il n'y a rien du tout. En fait, c'est peut-être encore pire.
Il souffle sur les flammes pour.
Mais tu dis, mais en fait, on ne sait pas qui sont ces gens.
Détail pour pas qu'on dise Navo a dit que Le Pen n'était pas antisémite.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Je vais te sauver. Laisse-moi te sauver.
Là, c'est mon côté troll. C'est pas moi qui pense qu'il est antisémite. C'est je dis, attention, si tu pousses la logique jusqu'au bout, que ces gens-là ne pensent jamais rien, qu'ils n'ont aucun honneur, aucune valeur, rien du tout, qu'ils ne pensent rien.
Non, j'ai pas dit qu'ils pensaient rien. Le fait de ne pas avoir d'honneur ne veut pas dire que tu penses rien.
Quand bien même il sera antisémite, le mec est complètement capable de rien du tout faire dans le sens de l'antisémitisme, pourvu que ça lui rapporte.
L'extrême droite ne fait que ça. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes ce qui se passe en Italie, où pendant tout le long, Madame Meloni a dit « Immigrants !» Elle en a deux fois plus que d'habitude. Donc, ils sont même pas capables de faire ce qu'ils promettent. Et ceux qui mangent en premier quand l'extrême droite arrive, c'est les pauvres, qu'ils soient blancs, noirs, tout ce que tu veux. Blancs pauvres, qui sont de plus en plus, votent de plus en plus extrême droite. C'est-à-dire qu'ils votent sur les gens qui vont les éclater. Mais
alors qu'il y a droite dedans, quand même.
Il y a
un indice.
C'est extrême en plus. Donc, tu vois, c'est vraiment qu'ils vont loin dans le délire. Mais ils arrivent pas à comprendre ça parce que, justement, le discours dominant, leur fait croire que c'est d'autres objectifs. Et ce discours doit changer. Sauf que ce discours ne changera pas si les votants ne changent pas.
Donc pour toi, c'est une grande partie de loup-garou où les villageois, quand on leur dit « maintenant on passe au vote », ils sont même pas là. Mmh. Et donc les loups font ce qu'ils veulent la nuit.
Mais putain, c'est beau ça. C'est très très bien.
Donc à un moment tu dis les villageois voulaient pas voter le jour quand même.
À un moment,
pour leur mettre un coup de pression quoi, qu'ils fassent
même
au
si
moins 100 votes.
C'est pas qu'ils essayent. Mais au moins ils feront attention, tu vois, à ce qu'ils disent. Parce qu'après il y a le débat justement.
C'est clair.
Tu vois, donc s'il y a pas le débat,
j'adore cette analogie.
Ils en mangent 35 par nuit.
C'est exactement ce que j'ai dit, en beaucoup mieux, en plus drôle.
C'était très cohérent.
Parce que je suis auteur aussi pour les humoristes.
Ouais, voilà, si jamais il y avait.
Voilà, écoute, je te laisse ma carte. C'est une carte écolo, je voulais pas gâcher.
Elle est en rien.
Elle est en rien parce que je voulais pas. Voilà, pas de gâchis de papier, pas couper l'arme.
Je voulais te proposer un petit jeu, Wally.
Ouais.
T'es en promo pour ton spectacle qui sort en 2024, qu'on peut voir. Allez voir sur les réseaux sociaux de Wally. On va l'indiquer, bien sûr, dans l'émission. Mais allez voir ce réseau, s'il passe près de chez vous. Tu joues dans toute la francophonie.
Partout.
Donc voilà, donc le plus possible. S'il n'est pas près de chez vous, vous savez quoi? Allez voir les théâtres près de chez vous. Dites, on veut Wally Dia dans notre théâtre. Parce que vous allez donner votre voix au chapitre que les gens vont dire, attends, Wally, il est beaucoup demandé. Rien qu'ils reçoivent, 5 mails. Ils reçoivent jamais de mails, ces gens. Donc s'ils reçoivent 5 mails avec des gens qui disent, on veut Wally Dia, tu vois, ils disent, attends, c'est vrai ça, Wally Dia? C'est quoi ça, Wally Dia? Et puis ils vont regarder.
Il répare l'ascenseur.
Et voilà. Et il répare l'ascenseur et Wally Dia, il arrive dans la ville. Donc c'est vrai, c'est vrai qu'on doit se réapproprier quand même cette part politique, c'est vrai. Sans forcément culpabiliser. Ça s'appelle l'interview antidérapage.
Il a très bien compris tout ce que t'as expliqué. Il s'est dit, ok, donc en fait, pour le spectacle, faut faire comme les politiques et comme Coca-Cola.
Exactement.
Un euro, ça compte. Chaque personne compte. Wally, si vous voulez qu'il dise ce que vous avez envie d'entendre, il faut aller dans sa salle. Et comme ça, s'il dit pas ce que vous voulez qu'il dise, vous huez jusqu'à ce qu'il dise ce que vous voulez entendre parce qu'il est là pour l'oseille.
Sauf que, comme ils auront déjà payé, ça marche pas.
Oui, mais pour la fois d'après.
Ouais,
c'est
pour
ce
la
que
fois d'après.
Ça t'expliquer.
Ah bah, je changerai de métier. Je pense si je te fais huer pendant une heure, je pense que.
Alors, l'interview anti-dérapage, c'est quoi? C'est, il faut imaginer que t'es sur
une des plus grandes chaînes de France. T'es vu par la plus grande audience de France. Je te dis alors, vas-y, parle-moi de ton spectacle. Et là, tu commences une phrase qui est la pire, le pire début de phrase à avoir. Et tu devras faire une souplesse dorsale. C'est-à-dire une souplesse pour...
Il est en direct, en fait.
T'es en direct.
Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai dit, donc Le Pen n'est pas antisémite. Et qu'après, il a fallu que je fasse un
dérapage. Le problème, c'est que j'ai tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que si je vais là-dedans, je me dis, bon, foutu.
William, vous êtes là pour votre spectacle qui s'appelle, vous n'avez pas encore de nom sur le spectacle.
Il va s'appeler Une heure à tuer.
Une heure à tuer. Mmh. C'est marrant. Olivia, vous êtes là pour votre spectacle Une heure à tuer, en tournée dans toute la Franconie. Mais avant, vous vouliez nous dire quelque chose.
Ah oui, les femmes se plaignent beaucoup trop pendant l'accouchement.
Wally, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attendez, vous venez de dire oui, les femmes quoi
se plaignent beaucoup trop pendant l'accouchement.
Mais
c'est surtout quand on y assiste alors que c'est pas ta femme. C'est là où elles se plaignent beaucoup.
Mais toutes les femmes que tu es allé voir pendant qu'elles accouchaient alors que c'était pas la tienne.
Je préfère quand même un accueil chaleureux, quoi. Ce serait quand
même. Donc elles se plaignent de votre présence.
Exactement.
Ah, d'accord.
Ce qui est logique. Ce qui est logique.
C'est très. Bah écoutez, non, mais franchement, je vois les spectateurs se sont rués sur l'étiquette de votre spectacle. Et ça, pour le coup, bravo.
J'ai des gens sur les réseaux qui demandent. Et donc vous en avez tiré une leçon et vous avez cessé d'aller voir ces femmes dans les hôpitaux?
Alors non, parce que je pense que justement, il faut participer à. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir.
Applaudir les femmes qui donnent la vie.
Et au début, oui, c'était un peu gênant. Mais
elles pensaient que c'était pour le personnel hospitalier. Elles n'ont pas compris que c'était pour elles.
Et moi, je me mets devant.
Okay. Il faut applaudir les femmes qui donnent la vie.
Donc aussi la mère de Jean-Marie Le Pen. Le mec n'arrive pas.
Le mec n'arrive pas à redescendre. Olivia, encore, on va montrer d'ailleurs un extrait de votre spectacle après, mais avant de montrer cet extrait qui vous met vraiment à l'honneur et on voit que c'est un très très bon spectacle et les gens, je pense, iront le voir du coup. Vous vouliez dire quelque chose, justement, juste avant.
Oui, je voulais dire qu'avoir un cancer peut être positif.
Oh. Alors, attendez, parce que je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, sont dans cette situation. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, Olivia?
Avoir un cancer peut être positif parce qu'on peut aussi en avoir deux. Et on regrettera le moment où on en avait qu'un. C'est comme quand on a le nez bouché, par exemple. On est là, c'était quand même mieux quand je respirais hier. Et c'est important de profiter de son cancer unique plutôt que... Quand il sera généralisé.
Alors, je suis un peu pêle-mêle, mais...
C'est optimiste dans la tristesse.
Vous êtes optimiste, oui, t'es un optimiste, en fait.
C'est se contenter de ce qu'on a.
Et la limite, vous la situez à combien de cancers qu'il est, du coup?
Je pense qu'au bout de 3, on est gourmand.
Au bout de 3, là, on peut se plaindre quand
même. Là, quand même, on est...
Au bout de 3, on peut être un peu...
Ouais, c'est quand même... Voilà, la sécu va morfler, quoi.
Ok, à 3, on peut commencer à se plaindre. Avant, vous pensez que...
À 3, on peut commencer à se la raconter.
À se la raconter.
D'accord.
Bon, il est bon, bah, on va regarder tout de suite le sketch
sur le concert.
ça m'a beaucoup satisfait qu'il n'ait pas fait un jeu de mots avec l'astrologie. Ah. Il y a une espèce de double admiration. J'étais là, il va s'en sortir avec un jeu de mots. Non, il ne l'a pas fait.
Walidia, vous vouliez dire quelque chose dans cette interview, mais vous m'avez dit, on parlera du spectacle, mais juste avant, vous vouliez dire quelque chose.
Ah, le problème avec les migrants...
Ah. Alors, attendez, il y a un problème avec les migrants?
Oui. Le problème avec les migrants, c'est qu'il n'y en a pas assez.
Il n'y a pas assez de migrants.
Et je trouve que le grand remplacement tarde. Parce que quand même, à un moment donné, on est là, on nous l'annonce, et non. Donc, moi, je suis un peu déçu.
Ah, vous êtes un peu déçu?
Bah, j'ai envie d'assister à ça, quand même. Un grand remplacement. Quand même,
comment ça va se passer, votre
vie? Il y a eu les 30 Glorieuses, il y aura le grand
comment
remplacement.
Comment vous le voyez, le grand remplacement, genre...
Déjà, plus vous.
Ils prennent... non, mais du coup, c'est...
Déjà, plus vous.
Mais concrètement,
et encore,
Kian
et Kian, ça peut rentrer.
Ouais, Kian, ça passe dans le remplacement. Kian qu'aujourd'hui, ça rentre dans le remplacement.
Mais ça passe comment? Toc, 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 ils prennent la place.
En fait, non, c'est des gens, ils vont venir, ils vont vous ouvrir. Ils vont rentrer dans vous.
Ah, d'accord, ça
ils vont refermer, ils vont marcher comme vous, mais c'est pas vous.
Ah, du coup, ils seront blancs.
Ils seront blancs.
Oh, c'est bon.
C'est bon.
Ah, oh, j'avais peur du grand remplacement, moi. Je suis saoul. Merde,
c'est juste recommencé. Vous êtes mort. Ça
parce
va,
que Jean-Marie
c'est
Le Pen.
Non, merde, arrête. Écoutez, vous avez vraiment réponse à tout. Et écoutez, en plus, j'ai cru à un moment donné que vous alliez déraper. Non, et pas du tout, vous n'avez pas dérapé. Vraiment, c'est anti-dérapage total. Et une dernière question. On parlera du spectacle, naturellement. Mais avant, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Et c'est cette phrase qui est là.
Ah oui, c'est vrai que je n'aime pas donner de l'argent aux SDF.
Vous n'aimez pas soutenir les gens qui sont dans la précarité?
Non, parce que ils ne partagent pas la drogue qu'ils achètent avec.
Partage. Attendez, alors attendez.
Pour vous, les SDF sont des toxicomanes.
Voit Twitter, voit X s'enflammer.
Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, ils nous disent que c'est pour s'éloigner de la réalité. Et non, je veux dire, moi, je pense que quand on veut, on peut.
Quand on veut,
et que les aigles ne se mélangent pas avec les pigeons.
Oh là là.
Et qu'un lion marche seul.
Pas du tout un antidérapage. Il fait, je vais aller tellement loin.
Que ouh là là, ça dérape.
J'ai tellement dérapé.
J'entends le train de
et les moutons s'éloignent. Et je suis encore des citations Instagram.
Il est en train de déraper totalement là, ça sur TikTok avec les sous-titres.
Je pense surtout que les SDF n'existent pas. Je veux dire, il y a les JO bientôt, donc il y aura plus de SDF, donc il y aura plus de questions. Plus de questions.
Là, alors, il y a des gens outrés, mais le gouvernement vous salue. Macron vient de déclarer, je vous l'avais dit, qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues. Wally l'a dit. Je crois pas que c'est mon ami à la base.
Non, et c'est vrai. C'est vrai. Ils vont être, ils vont flotter dans le ciel.
Ah, ils vont flotter dans le ciel.
Un jour, ils retomberont.
C'est vrai qu'il n'y en aura plus, du coup. Plus de SDF dans Paris.
Alors, c'est les gens qui ont des hélicos qui vont gueuler, quoi. Mais sinon.
ils gueulent beaucoup, quand même. Hein.
Se plaignent beaucoup. Ah, plus que les gens qui ont des cancers.
C'est facile, un hélico, ça coûte cher.
Vous avez quand même pas beaucoup dérapé. Et ça, pour le coup, félicitations.
Sur la fin, quand même.
Oui, il y a eu un petit dérapage, mais c'était dérapage contrôlé, j'ai l'impression.
Mais en même temps, c'est raccord avec tout ce qu'il a dit. Tu vois, il s'est dit les SDF sont pas des clients.
Non, mais les SDF n'ont pas de télé. Donc,
s'en fout.
Pourront pas réagir.
Vrai que c'est pas, il y a pas de clic, il y a pas de clickbait sur le SDF.
T'as réussi à emmener Kian sur le terrain de l'humour obscur, noir et agressif. Et regarde, il le fait avec joie.
T'inquiète, tu vas voir.
Il a besoin d'un guide.
Laisse son enfant grandir, tu vas voir. Tu vas voir comment. Attends, mais il lui prévoit un foutu de merde à lui. Et hop, il va s'énerver.
Oui, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
Ouais. Truc que t'as vraiment, tu dis waouh, ça c'est fou, ça m'a beaucoup influencé.
Non, mais on m'a dit un conseil très très simple. Très simple. Ouais. Oui, je laisserai la personne s'en approprier la propriété, d'ailleurs. On m'a dit, écoute d'abord ton ventre. Et c'est ton ventre qui va te dire là où tu vas. La sensation qui se passe là, si tu sens que ça se tend, si tu sens que ça se détend, si tu sens que ça grogne, si tu sens que c'est vide, etc. Parce que c'est le seul endroit où il y a le moins de biais. En fait, la tête, il y en a beaucoup, le cœur, il y en a beaucoup. Le ventre, il est assez sincère dans ce qu'il pense tout de suite d'une situation. Tu le sens hein, quand tu es entouré de gens où tu n'es pas bien. C'est ton ventre, il va te le dire. Quand tu vas prendre une décision où tu vas hésiter entre l'argent et l'intégrité, ton ventre, il va te le dire. Ta tête, elle ne va pas te le dire. Et tes yeux, ils vont voir ce que tu peux acheter, etc. Donc, mais ton ventre, il sait. Et pour l'instant, je crois que c'est à lui que je fais confiance. Ouais. C'est au ventre et je donnerai ce conseil à pas mal de gens. C'est là où on se trompe le moins.
C'est brillant. J'ai une nouvelle petite séquence que j'aimerais mettre dans un bon moment. C'est la séquence du merci. Mmh. Parce qu'on a rarement l'occasion de dire merci aux gens de manière publique. On peut le faire. On a appelé les gens, en fait, merci. Ouais. Tu me donnais ton goûter quand j'avais pas à manger et tout. Mmh. Mais j'aimerais que tu prennes le temps de dire merci à quelqu'un qui a vraiment compté pour toi dans ta vie. C'est pas forcément un proche familial ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui t'a vraiment rendu service et qui t'a ouvert la voie à quelque chose.
Bah justement, là, comme on a beaucoup parlé du métier, je voudrais remercier la personne avec qui je travaille depuis 8 ans, 9 ans maintenant, qui s'appelle Michael Quiroga,
que
vous connaissez, etc.
On a vu dans le Jamel Comedy Club,
exactement,
plusieurs fois,
la première saison, etc. Et avec qui je travaille depuis des années maintenant, qui est mon avocat du diable, qui est vraiment la personne avec qui je me confronte le plus, mais avec qui je parle le plus aussi de tout ça, de tous ces sujets de société, etc., qui m'a énormément fait progresser, qui m'a poussé dans plein de retranchements, qui m'a poussé à oser des choses, qui a réveillé plein de trucs, qui a structuré plein de trucs, parce que parfois on est en colère et on n'arrive pas à structurer un propos, on a juste envie d'insulter tout le monde, et c'est plus simple quand il y a quelqu'un qui dit oui, je sais, moi aussi, je trouve que c'est des connards, mais on va pas écrire que c'est des connards, parce que sinon t'as perdu si tu dis juste que c'est des connards. Et donc c'est très important d'avoir des gens de bons conseils dans la vie, des gens qui te donnent des conseils qui n'ont rien à voir avec leur vie à eux. C'est très rare, les gens qui arrivent à détacher les conseils qu'ils te donnent de la vie qu'ils ont et de comment ils la perçoivent. Et lui, il y arrive. Et je, voilà, je suis content d'avoir ce mec-là sur ma route, avec qui on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et si ça marche, c'est aussi grâce à lui. Donc c'est important de remercier les gens de l'ombre dans ce métier qui prennent parfois jamais la lumière, et surtout, lui, il ne la demande pas. Et c'est ça que j'adore.
Eh bien, tant mieux pour Michael Quiroga, qu'on salue d'ailleurs. Qui travaille avec François-Xavier de Maison, entre autres, qui travaille avec pas mal de monde.
Qui avait son spectacle, il fait toujours des spectacles.
Il va revenir, parce que moi aussi, je le pousse.
N'hésitez pas, je suis sur ses réseaux sociaux, Michael Quiroga, pour savoir un peu qui est l'homme d'ombre de Walidia.
Un auteur qui écrit des blagues et qui faisait du rap.
Ouais, c'est vrai. A tout fait, radio, rap, la sécu, les chantiers.
Je trouve que c'est des mecs formidables, ces gens-là.
Ouais, oui. Il est brillant.
Formidable. Est-ce que tu as une recommandation culturelle, un artiste que tu voudrais recommander? Tu dis, lui, vraiment, il est génial, ou elle est géniale, de la musique.
Ça passe hyper vite, c'est trop bien d'arriver en retard. Je peux arriver en retard. Je me dis, attends, mais il pose les questions de la fin, là.
Du chant, de l'humour, peut-être un jeune artiste. Tu dis, putain, Walidia, il m'a et j'ai adoré.
Attends que je réfléchisse.
Vas-y, prends le temps.
Si, je sais qui je vais recommander, en fait.
Vas-y.
Évidemment, quelqu'un qui peut te faire évoluer grandement sur ta vision de la vie, c'est quelqu'un qui s'appelle Quentin Ratcheville, qui est un jeune humoriste atteint de deux maladies auto-immunes. Mm-hmm. Et
donc lui peut se plaindre.
Quand
il avait qu'une, tu disais, ça va.
Quand il en avait qu'une, c'était un peu, il y en a d'autres, ça va. Là, il en a deux, c'est-à-dire qu'il a t'as plus de chances de gagner à l'euro-million que d'avoir deux maladies auto-immunes. C'est vraiment un truc assez incroyable. Et ce gamin, parce qu'il a 20 ans, ce gamin-là, aujourd'hui, est sur scène, après avoir vécu plus de 20 opérations avec pronostic vital engagé, donc c'est pas rien. Et il est là, et il arrive à détendre les gens autour de sa condition et à te faire prendre du recul sur énormément de choses. C'est très rare à cet âge-là d'avoir ce recul-là et cette drôlerie-là. On s'est rencontrés dans sa chambre d'hôpital et puis maintenant il fait mes premières parties, il fait sa propre tournée, et vraiment s'il y a des gens que je vous invite à aller voir et qui c'est des spectacles qui peuvent transformer une petite partie de ta vie. Évidemment c'est rare les artistes qui te bouleversent des cheveux jusqu'aux orteils, mais lui il y a quelque chose qui se passe. Une fois que tu l'as vu, Quentin Ratcheville.
Très bien. Navo, t'as quelque chose à recommander?
Moi, Squeezie. C'est un jeune youtubeur. Franchement, non, parce que. Attends, je regarde, pardon. Mais toi, vas-y. Non, toi.
Moi, je recommande d'aller vous renseigner sur l'Académie d'humour. C'est une académie qu'il y a au Théâtre de la Loge à Paris, tenue par trois femmes exceptionnelles qui font un travail assez intéressant et qui forment les humoristes à l'intelligence, à la construction. Ils vous apprendront pas à être drôle, mais ils vous apprendront à vous construire, justement. On a parlé de construction, de se construire, de, comme tu disais, tu vas parler qu'avec les mots que tu as, donc plus t'apprends de mots, plus tu peux parler, plus tu peux discuter et étayer ton propos. Et je trouve que leur démarche, elle est assez saine. Elle est pas du tout en mode, elle est pas du tout clan, on est une école, machin et tout. Elle rend les gens assez libres. Il y a des gens qui sortent de là, qui sont plutôt bien éveillé, je trouve. Donc, gros big up à leur travail.
Je sais pas si je l'avais déjà recommandé, mais je le recommande à nouveau si je l'avais déjà fait. La chaîne YouTube Dans ton corps de Julien Méniel.
DTC,
mais la chaîne s'appelle Dans ton corps. Et c'est une chaîne qui répond à beaucoup de questions de santé. Voilà, donc c'est intéressant, il va faire part, par exemple, les clichés sur la sexualité, les clichés, tu vois, pourquoi, comment bien dormir la nuit, etc. Et c'est hyper intéressant, c'est très marrant, Et cette famille, puisqu'il s'appelle Julien Méniel, et on connaît un autre gars très marrant qui s'appelle Adrien Méniel.
Ultra marrant, même.
Voilà, et il est très très fort aussi, très intéressant, infirmier de métier, je crois.
Ouais.
Et du coup, il en parle très bien, Dans ton corps.
Est-ce que t'as passé un bon moment?
Écoute, c'était vraiment cool.
Chambé, n'hésitez pas à retrouver Walidia en tournée dans toute la francophonie. Il sera à Paris, il sera en Suisse, en Belgique, peut-être à Montréal aussi.
On aimerait bien. Jamais allé là-bas.
C'est génial, tu vas kiffer. Le public montréalais est exceptionnellement généreux. Ouais. Vraiment, c'est fort, formidable.
Et c'est toi qui fais un effet... tu parles à ton enfant dans ton précédent spectacle.
Oui,
quel bel effet.
Ah, t'as vu?
C'est bien fait. Quel bel effet de mise en scène.
C'est super bien fait.
Ouais,
bravo.
Ah, c'est cool, merci.
Ça, c'est très, très bien fait. On peut retrouver ton spectacle sur Prime Video.
Oui.
Sur Prime Video.
Ouais. Cette apparition un peu magique, je dis pas ce qui se passe, je dis rien, mais il se passe quelque chose de, qui te fait, oh, tu vois.
C'est bien joué. Et on a besoin de ça dans les captations, d'avoir des choses un peu nouvelles. Qui a réalisé la captation?
Stéphane Boé.
Stéphane Boé.
Ouais, qui est excellent et je lui avais demandé un truc assez compliqué en plus et il s'en est très, très bien sorti et je suis très heureux.
Grosse dédicace au Steph. Merci à vous les gars, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission et puis vraiment j'espère que ça va. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.